Bonjour et bienvenue sur Floraison. Voici la suite du podcast consacré au livre de Jacques Lusy, Au rendez-vous des mortels, et publié aux éditions La Lenteur. En tout, ce podcast est divisé en 3 épisodes, dont voici le deuxième. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, on vous conseille d'arrêter celui-ci et de retourner au début de la série. Dans cet épisode, il s'agira de comprendre l'apport de la science dans la construction de la civilisation moderne, mais aussi le déni de la mort qu'elle engendre. Bonne écoute.
Une des idées centrales du livre, c'est de distinguer deux types de savoirs. Parce que les êtres humains ont toujours développé un savoir qui n'était pas forcément un savoir scientifique, mais qui était plutôt un savoir d'ordre pratique. Donc un livre qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, c'est par exemple le livre de Lévi-Strauss sur la pensée sauvage, où en fait il montre que ce qu'on appelle nous les sauvages, donc les sociétés primitives, développent, ont une connaissance parfaite de leur environnement, mais c'est une connaissance pratique. Et du point de vue logique, si les premiers hommes qui ont vécu sur Terre n'avaient pas développé un savoir, ils n'auraient pas survécu, donc nous ne serions pas là. Donc ce lien, en fait, il apparaît dans l'expression « les savoir-faire ». Quand on parle de savoir-faire, en fait, il n'y a pas de distinction entre le savoir et le faire. Ce qu'introduit socialement la science, c'est justement cette distinction entre le savoir et le faire. D'un côté, le savoir, c'est développé par des experts, par ceux qui appartiennent, qui ont le titre de scientifique, qui vont développer un savoir théorique, qui est un savoir abstrait. Et donc, au lieu que le savoir naisse de la vie courante, ou de ce qu'on peut appeler le monde de la vie, il y a un savoir abstrait qui est appliqué à la vie quotidienne, en fait. Que le savoir soit intégré dans nos objets, que ce soit le savoir managérial, etc. C'est à chaque fois un savoir qui se développe en dehors du faire et qui va dominer le faire. Et c'est un des grands basculements social qui est introduit dans la civilisation industrielle, c'est justement ce renversement entre un savoir qui naît de la pratique et un savoir qui domine la pratique. Et on peut considérer que, y compris les problèmes écologiques, naissent justement de ce renversement-là, qui est de l'application d'un savoir qui est un savoir abstrait hors sol à l'ensemble de l'existence et avec l'idée de la maîtrise et de la domination de la nature. Nous sommes dans une situation où le commun des mortels, ou le membre simple du peuple, utilise des objets, des outils technologiques dont il n'a pas la moindre idée de la manière dont ils fonctionnent. Si vous prenez n'importe qui dans la rue qui a son téléphone portable, qui est en train de tapoter sur son téléphone portable, et vous lui demandez comment ça fonctionne, quels sont les métaux qu'il y a dans ton objet, d'où viennent ces métaux-là. La base de la réflexion de ce retournement, c'est les écrits de jeunesse de Marx. Quand même. Il ne faut pas oublier que des auteurs comme Ivan Illich et Lewis Mumford sont au départ des grands lecteurs de Marx. Quand on lit en fait les écrits de jeunesse de Marx, ce qu'on appelle les manuscrits 1844, l'idée fondamentale de Marx, c'est justement ce renversement dans l'idée que la vie pratique, ce qu'il appelle la praxis, donc c'est la praxis pour le dire de manière en langage commun, on va dire, c'est l'activité matérielle des êtres humains qui est en rapport avec la pensée, parce qu'un artisan, c'est quelqu'un qui va penser son travail, donc c'est quelqu'un qui va développer une forme d'expérience qui est également une expérience mentale. Cette activité pratique, cette praxis, elle est capturée par le capitalisme. Et vous trouvez chez Marx des intuitions qu'il n'a pas poussées jusqu'au bout parce qu'il s'est abandonné à l'économisme. Mais il y a déjà l'idée chez Marx que la science, la technoscience, va devenir le premier facteur de production capitaliste.
Tu écris que la technoscience, elle participe à un mouvement d'effacement du tragique de la condition humaine. Et j'aimerais bien que tu nous expliques ce que ça signifie.
Ben, la condition humaine a un aspect tragique parce que nous sommes à la fois mortels et nous avons également surtout conscience de la mort. Je crois que c'est Borges. Oui, bon, je ne sais pas comment on dit Borges ou Borges, l'auteur argentin, qui a une expression, c'est pas textuel, mais ça veut dire ça. Il dit que seul l'homme est mortel parce que seul l'homme a conscience de la mort. Donc ce qui caractérise l'être humain, c'est pas son pouvoir technique. L'homo faber, il naît bien avant homo sapiens sapiens. Ce qui caractérise homo sapiens sapiens, c'est l'aspect, c'est la conscience de la mort. Donc c'est homo sapiens sapiens qui développe les premiers rites funéraires, qui développe les premières religions, donc les premières interrogations existentielles. Et donc l'aspect tragique de l'être humain, c'est ça. C'est un être vivant qui a conscience d'avancer de manière tout à fait lucide vers la mort. Donc toutes les sociétés ont développé des cultures par rapport à ce problème qui peut être considéré comme un des problèmes centraux de l'humanité. Il y a eu des religions du salut comme le christianisme. Il y a eu d'autres solutions, l'idée de réincarnation qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations ou cultures. Donc ce qui caractérise la société industrielle, c'est la promesse en fait de dépasser la condition humaine et en particulier la condition de mortel grâce à la technologie. Et là on retombe en fait sur le transhumanisme qui légitime en fait les nouvelles technologies, donc nano, bio et intelligence artificielle, en associant en fait le développement de ces technologies avec la possibilité non plus de dépasser la mort d'un point de vue symbolique, mais de réaliser effectivement une forme d'immortalité.
Pourquoi il y a cette nécessité de travailler ce récit sur l'absence de mort ou en tout cas le déni de la mort ?
Ben, je pense qu'à l'intérieur de notre société, déjà, il y a un fondement existentiel qui touche à peu près toute l'humanité. C'est très difficile de se dire qu'on va mourir. Faut pas. donc il y a l'aspect individuel, après il y a l'aspect social. Et puis il y a aussi les conséquences antisociales de la conscience de la mort, possiblement. La recherche de consolation à son état de mortel peut avoir des dimensions antisociales. C'est ce que l'auteur Elias Canetti, qui a été prix Nobel de littérature et qui a toute sa vie a pris des notes sur la mort, et ça a été publié récemment sous le titre du Livre de la mort. Elias Canetti parle d'infection par la mort. Et je pense que derrière cette expression, c'est l'infection par la conscience de la mort. Et par le fait de rechercher une consolation qui va nous pousser à fuir notre état de finitude. Et je pense qu'une des formes de l'infection par la mort, c'est la recherche de la puissance. Dans mon livre, je cite un auteur américain qui était un journaliste qui va effectuer des enquêtes là où il y a des guerres. Et en fait, il explique que c'est comme une drogue, en fait. C'est comme une drogue d'arriver à survivre à ce type de situation-là. C'est comme une drogue, le fait de tuer quelqu'un, c'est une forme de sentiment de puissance qui peut donner un sentiment d'immortalité, donc d'échapper à la mort parce que je la donne. Donc voilà, ça c'est des exemples d'infection par la mort, infection au sens où le fait de fuir la mort passe par le meurtre d'autrui. Et les technologies sont associées à cette volonté de puissance. Les technologies nous donnent la puissance de donner la mort. Et aujourd'hui, de me donner la mort de manière massive. Hein. Les sociétés industrielles ont quand même accouché de la capacité de l'humaine de s'autodétruire par une puissance, par l'hubris de la puissance, en particulier avec les armes nucléaires.
Mais du coup, ça, c'est purement social, dans le sens où la technologie va donner ce sentiment de puissance à tout à chacun, mais sans que individuellement on en vienne en fait à donner la mort à quelqu'un justement pour se donner ce sentiment de puissance.
Mais individuellement, moi j'appartiens à la société industrielle, je peux analyser la société industrielle et je peux avoir une analyse critique et un comportement critique par rapport au rapport à la mort qui est développé par cette société-là. Ça n'empêche pas que cette société-là a ce rapport-là à la mort. Qui est double d'abord, le fait d'évacuer la mort de l'espace social, donc de faire comme si les êtres humains ne mouraient plus. La mort n'a lieu que dans des lieux qui sont fermés à l'espace social. Et par ailleurs, le mode de vie industriel repose en grande partie sur le meurtre, que ce soit le meurtre de la nature ou que ce soit le meurtre des autres. Un exemple très simple, c'est l'énergie nucléaire grâce auquel la France produit une très grande partie de son électricité. Si vous fouillez, Areva se fournit en uranium en grande partie au Niger. Et les conditions qui sont faites aux Nigérians qui permettent en fait cette exploitation sont des conditions mortifères. Que ce soit par la pollution ou que ce soit par la répression. Quoi. Le Niger considère que le manque à gagner, ça fait 40 ans, au moins 40 ans que Areva exploite les mines d'uranium au Niger, en particulier les mines d'arlite. Le Niger considère, en dehors des problèmes de santé, hein, que le manque à gagner est de 40 milliards. Si on veut, en caricaturant, en forçant le trait, il faut dire que ça fait 40 ou 50 ans que nous volons de l'uranium au Niger. Et donc que notre puissance technologique est mortifère au moins en ce sens-là, sans parler des conséquences possibles de l'énergie nucléaire et des centrales nucléaires en France.
Tout à fait, Lorenzo.
À ce point-là, juste une petite... Enfin, ça fait 2-3 semaines que le Canard Enchaîné produit des articles sur le nucléaire. Donc, il y a les trois quarts des centrales nucléaires françaises qui ont passé leur date de péremption. Et c'est pas des yaourts, quoi. Et la moitié, à l'heure actuelle, sont à l'arrêt à cause de problèmes de corrosion dans les systèmes de sécurité. Donc là, je crains malheureusement que nous rentrions dans une période où le risque que nous goûtions de manière très concrète à l'aspect mortifère de l'industrie nucléaire, nous rentrons dans une période de turbulence. Quand même.
Donc vie et mort sont indissociables. Et donc tu dissocies à la fois, tu montres que c'est ambivalent, quoi, qu'il y a la mort subie et la mort donnée. Et finalement, tu critiques la façon dont cela est pris en charge au sein de la société industrielle capitaliste, mais tu appelles à non pas nier cette nécessité qui est attachée à notre condition, mais à la peut-être la faire redescendre sur terre, en tout cas la prendre en charge politiquement, culturellement, par la forme de rite. Comment toi tu envisages une sortie de ce déni total?
Une sortie, je peux l'imaginer, je peux imaginer ce que ça signifie. Après, je pense qu'on est dans une société où il sera très difficile d'apporter ce bouleversement culturel qui permettrait, je pense déjà, un apaisement de notre société et puis une révolution dans la manière de vivre. Pour le résumer, un manque par rapport à mon livre, en relisant un vieux livre d'écologie écrit par René Dumont dans les années 70, qui est « Un monde intolérable », le titre du livre, René Dumont, qui a beaucoup voyagé, en particulier en Afrique, raconte l'anecdote suivante où il interroge en fait un chef africain ou un sage africain, je ne me rappelle plus exactement. En fait, je me rappelle même plus de la question, mais je me rappelle de la réponse, en fait. Et la réponse de l'Africain, c'est de reconnaître son statut de mortel, de reconnaître le fait qu'il n'est sur Terre que pour une certaine période. Et donc, son objectif, c'est de laisser la Terre à sa mort, dans le même état qu'il l'a trouvée à sa naissance. Et je pense que l'acceptation de la mort pourrait avoir ce type de conséquences, c'est-à-dire qu'au lieu de rechercher la volonté ou de nourrir la volonté de puissance technologique dans l'espoir d'avoir un salut terrestre qui se traduirait par l'immortalité, qui entraîne des dégâts écologiques qui poussent à l'autodestruction de l'humanité, parce que le paradoxe c'est ça, et c'est un paradoxe qui a été vu dès l'Antiquité, c'est que celui qui fuit la mort accélère en fait accélère le processus de mortalité, en fait. Et je pense que c'est un bon symbole de notre société qui, en voulant s'évader de la condition de mortel, produit en fait une situation qui est une situation d'autodestruction de l'humanité, d'autodestruction par l'hubris de la puissance, en fait. Et cet Africain, en fait, donne une piste, en fait. Déjà, il faut associer la naissance et la mort. Le fait que nous soyons nés tient au fait que nos ascendants ont accepté de mourir ou ont été forcés d'accepter de mourir. Et que la naissance, c'est une manière de régénérer l'humanité, de donner la possibilité à l'humanité de créer d'autres modes de vie, de créer des choses qu'on ne peut pas imaginer, nous, en tant que précédents, ceux qui vont naître à la suite. Donc c'est aussi un aspect positif de la mort. Et dans notre société, on ne développe pas assez l'aspect positif de la mort, l'aspect positif de la souffrance, puisque ce qui précède la volonté de supprimer la mort, c'est la volonté de supprimer la souffrance aussi. Mais là aussi, les sociétés traditionnelles, les sociétés primitives, ont réussi en fait à donner un caractère ou associer à ces éléments apparemment négatifs de l'existence humaine des éléments positifs qui leur ont permis également de l'accepter. Donc la souffrance est une manière d'accéder à la dignité. Si vous n'avez plus de souffrance, vous n'avez plus de dignité humaine. Si vous n'avez plus de mortalité, vous n'avez plus de naissance. Donc vous n'avez plus de cette espèce d'imprévisibilité de l'évolution humaine qui disparaît également. Mais pour ça, il faut arriver à quelque chose de difficile pour notre société, qui est de dépasser le point de vue purement individualiste. Si on se place d'un point de vue purement individualiste, la mort est insupportable. Si on arrive à transcender un petit peu cet aspect purement individualiste et qu'on regarde, qu'on se place au niveau collectif, social, à ce moment-là, il peut exister des justifications, que ce soit la souffrance mesurée, là encore, je suis pas masochiste, hein, et également la mort. En fait, Personnellement, individuellement, je n'ai aucune envie de mourir, et je pense qu'il existe des sagesses aussi dans la manière de vivre qui permet d'avoir une durée de vie qui est acceptable en tant qu'être humain. Donc il y a des manières humaines et sociales aussi, parce qu'on sait très bien que la durée de vie n'est pas la même selon la classe sociale. Donc il y a toute une série de mesures sociales, éthiques, existentielle à prendre pour avoir une durée de vie qui est encore humainement acceptable, c'est-à-dire de lutter contre la mort, mais de lutter d'une certaine manière et avec une certaine limite. Et en fait, c'est ces manières-là qui disparaissent de la société consumériste en particulier, puisque ça fait voler en éclats toutes les formes d'éthique. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on est de manière générale et en particulier dans le rapport à la mort, on est dans l'hubris. C'est-à-dire que le rêve de vivre 300, 500 ans, je ne sais même pas si c'est un rêve désirable. Je veux dire, je pense que la nature, quelque part, est bien faite et que c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on a le... La peur de la mort existe peut-être moins chez les personnes âgées que chez les jeunes. Parce que les personnes âgées ont atteint un âge où elles ont vécu, où elles ont fait le tour de l'existence, on va dire, et que la mort leur fait moins peur que des individus qui rentrent dans l'existence, quoi. Mais notre société, en fait, nourrit cette peur aussi. En nourrissant cette peur, elle nourrit son propre pouvoir sur les individus.
Du coup, c'est un appel, faut comprendre ça comme un appel à considérer la mort davantage comme un fait culturel et sociopolitique, et se dégager, se désincarcérer de cette vision purement biologique qui est entretenue par la société industrielle, la civilisation industrielle, en fait, de refaire de la mort l'endroit de pratiques de rites, ce genre de choses.
Je ne suis pas pour une renaissance de la religion. je pense qu'il y a... Je ne suis pas non plus contre les religions. Il y a une manière de discuter avec les religions qui peut permettre, en fait, de transposer dans l'ordre de la raison des éléments qui appartiennent aux religions de manière irrationnelle. Comment dire, je peux très bien rapporter ce que raconte Pierre Clastres des sociétés primitives d'Amazonie qui sont des sociétés
nomades,
merci, et qui à chaque fois qu'ils changent d'endroit en fait dans la forêt déterrent les restes de leurs morts pour les amener avec eux. Je connais pas les raisons pour lesquels ils faisaient ça, c'est peut-être des raisons irrationnelles qui tiennent à leur propre culture et à leur propre religion, mais je peux transposer ça dans l'ordre de la raison. C'est-à-dire que je peux comprendre cette pratique-là comme l'idée et la pratique de ces sociétés-là de conserver vivant les morts. Et ça a un effet sur l'infection par la mort. Ça contrebalance en fait cette infection, parce que les individus de ces sociétés savent que quand ils vont mourir, ils vont continuer à appartenir à la société. On va pas les oublier, ils vont pas tomber dans les ténèbres. On connaît l'expression qu'en fait on meurt deux fois, on meurt une fois biologiquement et on meurt une deuxième fois quand plus personne ne pense à vous. Cette deuxième mort là, ces sociétés là cherchent, pour des raisons qui sont peut-être irrationnelles, à la neutraliser. Et du coup, ça a un impact chez les vivants, parce que les vivants savent très bien que quand ils vont mourir biologiquement, mais symboliquement, ils vont rester vivants parce qu'ils vont rester membres de la société. Mmh. D'accord. Et notre société, nous, au contraire, écarte. Quand vous mourrez aujourd'hui, vous allez peut-être mourir dans un EHPAD oublié de tous, vous allez être enterré rapidement, et puis hop, la vie va continuer. Donc la mort biologique est également la mort symbolique. Mmh. Donc une idée en fait qui pourrait être c'est de réintroduire les morts dans la société de manière toujours l'objectif c'est de neutraliser les effets négatifs que peuvent avoir la conscience de la mort sur les individus et les effets antisociaux. Mmh. Je veux dire, aujourd'hui on peut considérer que cette espèce de consumérisme forcené, la volonté de tout consommer aujourd'hui pour ne rien laisser à ceux qui vont suivre, C'est une manière d'être infecté par la pensée de la mort. C'est une consolation. D'accord. On est dans une société qui vit comme si personne n'allait suivre, quoi. On épuise les réserves pétrolières ou d'énergie fossile. Et au lieu de se dire, calmons-nous, on va peut-être en laisser à ceux qui vont arriver ensuite, on cherche une solution qui va nous permettre de continuer à manger le monde, quoi. Mmh. Et de le manger de manière instantanée. Et ça, c'est complètement nihiliste. Et c'est une négation à la fois de la naissance et de la mort. Mmh. Parce que les deux sont toujours liés, quoi. C'est comme si plus personne allait naître après nous. Mmh. C'est l'inverse de l'Africain qui disait « Moi, je veux laisser la Terre dans le même état que je l'ai trouvée à ma naissance ». Et je pense que notre société industrielle, En fait, mon livre, c'est une forme de symbole. La mort, il faut le voir comme un symbole. Notre société industrielle se nourrit de la négation de la condition humaine. Et ce qui symbolise la condition humaine, c'est la mort. Et donc, on renversera cette société-là et ses aspects mortifères, hein, puisqu'on va vers l'autodestruction. On ne renversera ça que si on renverse culturellement notre rapport à la condition humaine. Et que si on donne des aspects, si on reprend conscience des aspects positifs, des éléments négatifs de la condition humaine. Parce qu'on se construit par rapport à ces... Enfin, l'humanité s'est construite par rapport à ces aspects négatifs.
C'est la fin de ce deuxième épisode de podcast consacré au livre de Jacques Lusy, Au rendez-vous des mortels. On espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, on vous invite à nous retrouver pour le troisième et dernier épisode. À bientôt sur Floraison.